café de clin d'œil complice. Et surtout, des chocolats Jeff de Bruges, fondants, onctueux, raffinés. Jeff de Bruges, à Noël, offrez la recette du plaisir, à partir de 14,70€ le ballotin. En boutique, en click and collect et par coursier.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Vous écoutez Europe 1, il est 22h.
Europe 1 nuit. Maëlle Hassani.
Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner en ce jeudi soir pour Europe 1 nuit jusqu'à 22h30. Je vous rappelle d'ores et déjà qu'à 22h45, vous retrouverez à ce micro Olivier Delacroix pour la libre antenne. Et si vous souhaitez échanger avec Olivier, il suffit de composer dès maintenant le 01 80 20 39 21. Pour le moment, c'est votre journal. Et à la une, aucun procès n'avait suscité un tel émoi depuis des années. Des centaines de personnes étaient réunies devant la cour criminelle du Vaucluse ce matin au moment de l'énoncé du verdict au procès des violeurs de Gisèle Pelicot. Les 51 accusés sont reconnus coupables. Les peines prononcées vont de 3 à 20 ans de réclusion. Dominique Pelicot écope de la sanction la plus lourde. Récit d'une journée historique à Avignon dès le début de ce journal. Le courage de Gisèle Pelicot, salué unanimement en France, mais aussi dans le monde entier. Des dizaines de médias étrangers étaient accrédités pour suivre l'audience depuis septembre dernier. Et après le verdict, les hommages à cette nouvelle icône de la lutte contre les violences sexuelles se sont multipliés. François Bayrou promet un gouvernement avant Noël. Le Premier ministre a convié toutes les forces politiques à Matignon sans le RN ni LFI afin de les éclairer sur son projet avant de prendre la parole à la télévision. Alors cette opération séduction a-t-elle fonctionné? Pas vraiment à gauche, vous l'entendrez. Dans ce journal également, de la prison avec sursis pour le militant pro-palestinien qui avait appelé à mener l'intifada dans les rues de Paris. Et puis les Français travaillent moins que leurs voisins européens. Non, ce n'est pas qu'une légende. On vous dévoile les chiffres. La fin d'un procès hors norme est déjà historique, celui des violeurs de Gisèle Pelicot. L'ex-mari de la victime, Dominique Pelicot, reconnu coupable d'avoir drogué Gisèle Pelicot pour la violer et la livrer à d'autres hommes, écope de la peine maximale 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des 2/3. Plusieurs centaines de personnes se sont massées devant la cour criminelle du Vaucluse pour découvrir le verdict et acclamer Gisèle Pelicot, nouvelle icône de la lutte contre les violences sexuelles. Le reportage Europe 1 de Stéphane Burgat.
C'est la fin pour elle d'une longue épreuve. À la sortie de la salle d'audience, face à une nuée de caméras, Gisèle Pelicot, visiblement émue et éprouvée, livre ses premières impressions.
Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants. Je pense également à mes petits-enfants parce qu'ils sont l'avenir et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat.
Si Gisèle Pelicot assure respecter la décision des juges, ses enfants se disent déçus par des sanctions trop basses. En effet, hormis deux Dominique Pelicot, les accusés écopent de peines plus basses que celles requises. Déception également parmi les manifestants devant le tribunal.
Alors c'est sûr, il n'y a pas eu d'acquittement, mais il aurait fallu des peines maximales pour les 51 accusés. Un procès d'une telle ampleur, une telle gravité des incidents, c'est horrible ce qui s'est passé. Ça aurait dû faire avancer les choses, on n'en est pas encore là.
Reste maintenant la question des appels qui pourraient être formulés par les accusés. Certains ne le feront pas, ils l'ont déjà fait savoir par leurs avocats. D'autres se posent toujours la question, à commencer par Dominique Pelicot. Accusés qui ont maintenant 10 jours pour se décider. Avignon, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et parmi les co-accusés, Jean-Pierre M, jugé pour avoir reproduit le manège nauséabond de Dominique Pelicot sur sa propre femme, est condamné à 12 ans de réclusion. Au total, sur 51 prévenus, 41 vont dormir en prison ce soir. 3 seront convoqués plus tard pour être incarcérés, 6 restent libres. Le courage de Gisèle Pelicot suscite l'admiration également au-delà de nos frontières. Bonsoir Caroline Vaudry.
Bonsoir Maël, bonsoir à tous.
Ce procès a connu un retentissement planétaire.
Oui, sur les 180 médias accrédités pour suivre le procès, 86 sont étrangers. Le visage désormais iconique de Gisèle Pelicot apparaît aujourd'hui sur toutes les télévisions. Au Chili, par exemple, sur la principale chaîne d'info en continu.
Gisèle nous a tous interpellés parce qu'elle n'aurait pas eu à montrer son visage si la honte n'était pas dans le camp de ces violeurs, agresseurs. Il y a un avant et un après.
Merci, affichant en couverture un quotidien allemand. Le visage du courage, titre le prestigieux New York Times qui compare Gisèle Pelicot aux manifestants debout devant les chars de Tiananmen en 1989. Leur envoyé spécial en France raconte une force presque déconcertante.
Quand j'ai écrit les premiers articles, j'étais très prudente. On ne voulait pas l'identifier dans notre travail, alors on utilisait le mot Gisèle et c'est tout. Puis un avocat m'a dit, elle est presque sûre de vouloir rendre ce procès public. Je n'y croyais pas.
L'envoyé spécial du Times britannique raconte en une l'horreur du procès qui s'est invité dans ses cauchemars. Les violeurs de Pellico l'ont fait car ils le pouvaient, titre la journaliste. La culture française les a aidés, selon elle, en tolérant la débauche sexuelle et en la célébrant comme un droit. Fin de citation.
Le récit de Caroline Baudry. Vous écoutez Europe 1, il est 22h05. Reconstruire Mayotte en 2 ans. C'est l'objectif très ambitieux affiché par le Premier ministre François Bayrou à la télévision ce soir. L'archipel dévasté par le cyclone Chido reçoit la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui, 5 jours après la catastrophe. Le président de la République promet une loi spéciale pour faciliter les procédures et en finir avec les bidonvilles. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte. Malgré ces annonces, plusieurs Mahorais font part de leur impatience directement au chef de l'État.
Oui, des sinistrés qui l'ont interpellé plusieurs fois tout au long de la journée, dès son arrivée à l'aéroport où une employée lui a demandé de l'aide, un véritable soutien. C'est aussi ce qu'espère Rodolphe. Il salue le déplacement d'Emmanuel Macron, mais veut que cela amène des résultats concrets.
C'est quand même un signe fort, mais il faut qu'il y ait les moyens, parce qu'on entend, oui, il y a des cargaisons qui vont arriver, mais c'est où ? On voit rien. Que ça soit mieux géré, tout ce qui est distribution d'eau, distribution de nourriture, station essence, parce que là, c'est le carnage.
Plusieurs fois, des Mahorais demandent au président où sont les aides tant attendues. On rebâtira Mayotte, leur promet-il. Mais pour cette reconstruction, dit Emmanuel Macron, il faut changer les règles.
On va simplifier les procédures. Parmi ces procédures, il y a aussi celles qui permettent justement de mettre fin à ces bidonvilles et de supprimer les habitats qui sont à la fois indignes, dangereux, dans lesquels sont les clandestins.
Mettre fin aux bidonvilles et lutter contre l'immigration clandestine en même temps que l'on rétablit les écoles, l'hôpital, assure Emmanuel Macron. Au centre hospitalier de Mamoudzou, il a aussi abordé l'épineuse question du recensement du nombre de victimes du cyclone. Il est vraisemblable qu'il y ait beaucoup plus de morts, estime le président, que les 31 victimes recensées jusqu'à présent.
Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte, et le président de la République devait initialement repartir en fin de journée, mais il prend finalement la décision de dormir à Mayotte et de prolonger sa visite. Une promesse également en matière de lutte contre l'immigration illégale. Au cours d'un échange avec des élus locaux, Emmanuel Macron a dit sa volonté d'augmenter le nombre de reconduites à la frontière de 25 000 par an aujourd'hui à 35 ou 40 000. Une première estimation des dégâts pris en charge par les assurances s'élève entre 650 et 800 millions d'euros selon la Caisse centrale de réassurance. Mais il est important de préciser que seuls 6% du bâti est assuré sur l'archipel. Un fonds d'indemnisation sera lancé pour accompagner les habitants non couverts. Mayotte balayée donc par le cyclone Chido samedi dernier. Ses rafales de vent à plus de 220 km/h ont sidéré les prévisionnistes 90 ans après la dernière catastrophe comparable dans cette zone de l'océan Indien. Louis Salé, Météo France tente toujours de comprendre les raisons d'un tel phénomène.
Pourquoi le cyclone Chido est-il passé juste au-dessus de Mayotte avec une telle force sans être freiné par Madagascar ? C'est la question que se pose François Gourand, prévisionniste à Météo France.
La grande majorité des cyclones qui se forment dans l'océan Indien, dans leur déplacement, ont plutôt tendance à se décaler vers le sud et donc, au cours de leur trajectoire, finissent par rencontrer Madagascar, qui pour le coup est un obstacle d'assez grande taille. Et c'est pour ça qu'il y a rarement des cyclones très intenses qui passent dans cette zone.
Alors on sait que plus la planète se réchauffe et plus les cyclones sont nombreux et intenses, mais dans le cas de Mayotte, il faut être prudent, car le dernier cyclone violent remonte à 90 ans.
On manque cruellement de cas de cyclones comparables, en tout cas sur cette zone de Mayotte, ce qui en effet ne permet pas de conclure, en fait, en l'état actuel des connaissances, que le changement climatique a favorisé cet événement et même qu'il l'a rendu plus intense.
La force dévastatrice des vents de Chido jusqu'à plus de 200 km/h pendant 45 minutes a donc surpris un territoire peu habitué à des cyclones aussi puissants.
Louise Salé, spécialiste environnement à la rédaction d'Europe 1.
Europe 1 Nuit. Maëlle Hassani.
Un gouvernement ce week-end, avant Noël, dans tous les cas. Promesse de François Bayrou, invité de France 2 ce soir. Le Premier ministre réfléchit toujours à la composition de sa première équipe. D'ultimes consultations étaient organisées aujourd'hui à Matignon, en présence de toutes les forces politiques, mais sans le RN et sans LFI. Le Premier ministre espérait, en mettant autant de monde autour de la table, convaincre les uns et les autres de construire une union nationale.
Depuis le Parti communiste jusqu'à la droite de gouvernement républicaine, je leur dis, nous ne pouvons pas nous en sortir si nous ne sommes pas ensemble. On voit la situation, on voit les conséquences de la division, l'obstacle est immense, j'ai dit un Himalaya, et c'est exactement ce que je pense. Moi, je dis, on doit essayer. Et je crois qu'on peut y arriver. Et je crois que le chemin existe. Alors, c'est peut-être un optimisme délirant. Oui. C'est peut-être quelqu'un qui ne voit pas la réalité. Mais je vous dis avec certitude, si on ne réussit pas dans cet essai, alors c'est la dernière station avant la falaise.
François Bayrou sur France 2 ce soir, et pour convaincre la droite, le Premier ministre s'est clairement prononcé pour le maintien de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Pour convaincre la gauche, le chef du gouvernement promet de ne pas utiliser le 49-3, sauf blocage absolu sur le futur budget qu'il espère voir adopté mi-février 2025. Geste supplémentaire, l'annonce d'une conférence sociale pour revenir sur la réforme des retraites sans la suspendre. Alexis de la Fontaine, ses propositions déjà avancées un peu plus tôt lors des consultations à Matignon peuvent-elles séduire le bloc de gauche ?
C'est un non catégorique. Les socialistes, écologistes et communistes refusent de participer au gouvernement de François Bayrou. Après cette réunion, la gauche se positionne clairement dans l'opposition, au grand regret du patron du Parti socialiste, Olivier Faure.
En l'état actuel des choses, je le dis avec, en réalité, une forme de désarroi, nous n'avons pas trouvé de raison de ne pas le censurer.
Une censure partagée par les écologistes et les communistes. Pourtant, les socialistes et les verts étaient ouverts à la discussion et même favorables à un accord de non-censure. Mais la proposition de reporter le débat sur la réforme des retraites à septembre prochain dérange profondément l'écologiste Marine Tondelier.
Comment on va l'expliquer aux gens qu'il a promis un truc pour dans 9 mois? Alors que je pense que si on faisait un pari par les milliers français de qui pense que François Bayrou sera encore là dans 9 mois, pas beaucoup de gens ne prennent le pari. Et donc vraiment, c'est des promesses pour la cinglingue.
François Bayrou devra donc faire de nouvelles concessions pour espérer échapper à la motion de censure.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Plus de 2 mois après la découverte du corps de la jeune Lina dans un bois près de Nevers, les résultats de l'autopsie viennent d'être révélés. L'adolescente de 15 ans disparue en septembre 2023 alors qu'elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le Bas-Rhin est vraisemblablement morte par strangulation, affirme le parquet. Le seul suspect dans cette enquête s'est donné la mort l'été dernier. 95 personnes interpellées en France dans le démantèlement d'un important réseau pédopornographique international. Tous les mis en cause sont des hommes âgés de 16 à 74 ans soupçonnés d'avoir consommé des images pornographiques mettant en scène des enfants. Parmi les suspects, un éducateur sportif et un adjoint au maire. Elias Dimzalen, un nom désormais bien connu dans la sphère islamiste française. Ce militant pro-palestinien, fondateur du média Islam et Info, s'était fait remarquer en appelant à mener l'intifada dans les rues de Paris. C'était lors d'une manifestation pour Gaza en septembre dernier. Des propos qui lui valent aujourd'hui une condamnation à 5 mois de prison avec sursis pour provocation publique à la haine ou à la violence. Jean-Baptiste Marty était au tribunal correctionnel de Paris pour Europe 1.
Face à ses soutiens pro-palestiniens kéfiés autour du cou, Elias Dimzalen fanfaronne et fait lever de la victoire avec ses doigts. Pourtant, le militant pro-palestinien et fiché S vient d'être condamné. Une peine certes avec sursis, mais justice est rendue pour Maître Waknin Melki, présidente de l'Organisation juive européenne.
C'est une décision que nous attendions. Cette condamnation par la 17e chambre correctionnelle est une condamnation claire et sans équivoque. Les juges ne s'y sont pas trompés. Les appels lancés par Monsieur Dimzalen dans les rues de Paris sont bien des appels à la guerre civile.
Une condamnation donc justifiée pour l'avocate.
Cet appel à l'intifada ne relève pas de la liberté d'expression, mais constitue bien un abus de cette liberté. En essayant d'importer encore une fois le conflit qui se déroule à plusieurs milliers de kilomètres de la France, ces propos-là exposent les citoyens français dans leur globalité, et peut-être encore un peu plus précisément les citoyens français de confession juive, au danger de violence.
Elias Dimzalen est également condamné à payer 10 000 euros de dommages et intérêts au parti civil. Le militant pro-palestinien a 10 jours pour faire appel de sa condamnation.
Jean-Baptiste Marty, 3 ans de prison dont un enferme, peine prononcée aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris contre Mathias Pogba, le frère du footballeur Paul Pogba, condamné pour avoir orchestré la séquestration du champion du monde 2018 il y a 2 ans, dans le but de lui extorquer 13 millions d'euros. Mathias Pogba effectuera la partie ferme de sa peine sous bracelet électronique. Moscou accuse une nouvelle fois l'armée ukrainienne d'avoir frappé le territoire russe avec des missiles longue portée occidentaux, précisément des Storm Shadow de fabrication britannique, et des attaques MS américains. Frappe menée hier contre une usine de la région de Rostov, selon Moscou, qui promet une réponse. Il est essentiel de s'engager le plus rapidement possible sur la voie d'une paix juste, équitable et durable en Ukraine. Déclaration d'Olaf Scholz et de Donald Trump lors d'un entretien téléphonique ce soir. Le chancelier allemand et le président américain élu estiment tous deux, je cite, que la guerre russo-ukrainienne dure depuis trop longtemps. Vous écoutez Europe 1, il est 22h14. Ce n'est pas qu'une légende, les Français travaillent moins que leurs voisins européens. C'est ce que confirme l'enquête annuelle de l'Institut d'études économiques Rexecode. Et c'est dû aux jours de congés plus nombreux en France et aux 35 heures notamment, Brieux Bochet.
Oui, avec 1673 heures travaillées en moyenne en 2023, la France se situe bien loin de l'Allemagne. Nos voisins outre-Rhin ont travaillé 3 semaines de plus que nous cette année. Ils sont dans la moyenne européenne. Seuls les Suédois et les Finlandais travaillent moins que nous. En revanche, il y a quelques surprises en tête de peloton. Parmi les plus gros bosseurs en Europe, il y a les Roumains, les Bulgares ou encore les Grecs. Une différence qui s'explique par le fort taux d'emploi, toutes catégories d'âge confondues, explique Olivier Rodoulès, directeur des études chez Rexecode.
Les autres pays où on travaille plus, c'est pas tellement plus de salariés à temps complet, ce sont des salariés à temps partiel volontaire, et ça concerne notamment soit les personnes plus âgées, soit les jeunes.
Rexecode rappelle aussi que le temps de travail pèse lourdement sur la croissance. Si chaque Français travaillait seulement 16 heures de plus par an, le PIB gonflerait d'un point, près de 30 milliards d'euros supplémentaires. La France gagnerait aussi en compétitivité par rapport à nos voisins.
Brieux Bochet du service économie d'Europe 1. 12 entreprises écopent d'un total de 611 millions d'euros d'amende, sanction infligée par l'autorité de la concurrence à l'encontre de grandes marques comme Seb, Electrolux, Darty ou encore Boulanger. En cause, une vaste entente entre distributeurs et fournisseurs autour des prix à proposer aux clients afin de défavoriser la concurrence exercée par les revendeurs en ligne, un système mis en œuvre entre 2007 et 2014. Et puis du repos bien mérité pour Léon Marchand. Le nageur français dit avoir besoin de souffler, on le comprend, et il décide d'aller s'entraîner quelques semaines en Australie en début d'année prochaine. Le quadruple champion olympique rejoindra plus tard dans l'année son entraîneur attitré aux États-Unis. Un point sur les marchés financiers désormais.
Retrouvez Rendez-vous Bourse avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque.
Et la Bourse de Paris qui clôture en forte baisse en ce jeudi soir, moins 1,22% à 7294 points. Et du côté des États-Unis, eh bien c'est une clôture à l'équilibre, plus 0,04% pour le Dow Jones, moins 0,10% pour le Nasdaq. On est proche de la stagnation sur les marchés américains.
C'était Rendez-vous Bourse avec Fortunéo. Meilleure banque pour sa tarification bourse sur Euronext. Fortunéo, j'aime ma banque. Source MoneyVox Mai 2024, voir détail des conditions tarifaires sur fortunéo.fr. L'investissement en bourse présente un risque de perte en capital.
Et la météo désormais, avec vous Marlène Duret. Alerte orange dans les deux départements corse en raison d'un violent coup de vent cette nuit.
Oui, cette alerte va entrer en vigueur à 2h du matin et elle prendra fin à 14h. Demain, on a le vent d'ouest qui va se renforcer un petit peu partout sur l'île. En Balagne et sur les crêtes montagneuses, on attend des pointes à 130, peut-être même un petit peu plus. Le Cap Corse, particulièrement exposé, pourrait enregistrer des rafales extrêmes jusqu'à 180 km à l'heure. Et puis au matin, le vent va changer de direction. Et là aussi, prévoyez des rafales à 120 sur les zones côtières à l'est de l'île. Voilà, là-bas, on est moins exposé habituellement. La situation devrait ensuite se calmer. Mais dans l'après-midi, et noter en plus du vent, des averses potentiellement orageuses et de la neige sur le relief des 700 mètres. Ailleurs, ce sera un vendredi plus calme qu'aujourd'hui, sauf près de la Grande Bleue. Mistral et Tramontane vont souffler très fort, jusqu'à 110 km à l'heure du côté des Calanques de Marseille. Sans oublier la limite pluie-neige qui poursuit sa baisse et en fin de nuit, il neigera des 400 ou 500 mètres sur les massifs de l'Est, 600 à 800 sur tous les autres massifs et rien du tout pour les Alpes du Sud. Côté température, les maximales seront en baisse à l'Est, alors que de l'air plus doux reviendra par le Nord-Ouest. Comptez 4 à 8 degrés du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes, 8 à 13 sur le reste du pays et jusqu'à 16 sur la Côte d'Azur.
Merci beaucoup Marlène Duret. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. C'est l'invité politique, le député LFI Thomas Porte.
Bonjour, c'est Pascal Pro. Je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1.
11h, 13h, Pascal Pro et vous.
Écoutez Europe 1, c'est être libre.
Bonjour Pascal, tout ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui sont laissés sur le bord de la route. Ils nous font des promesses, des monts et des merveilles et on voit bien que ça se produit pas.
C'est toujours les mêmes qui payent et c'est toujours les mêmes qui sont taxés.
On ne peut pas tenir comme ça, c'est impossible.
Europe 1, la radio libre.
Pascal Pro et vous.
Je vous donne rendez-vous demain de 11h à 13h sur Europe 1. Je compte sur vous.
Dis donc, tout le monde parle de Bitcoin, de crypto, moi j'y comprends rien.
Fais comme moi, passe par CoinHouse, c'est sérieux. Des experts t'accompagnent et en plus c'est français.
Ah, c'est rassurant ça.
Bien sûr, avec CoinHouse, tout est clair, accessible. C'est l'idéal pour acheter des cryptos.
Redis-moi comment ça s'appelle.
CoinHouse, comme dans Bitcoin.
CoinHouse SAS, 14 avenue de l'Opéra, Paris 1er. La crypto-monnaie présente un risque de perte en capital lié à la volatilité des cours et à la cybersécurité. Plus d'infos sur coinhouse.com.
Europe 1. Et à 22h19, place maintenant à l'invité politique. Pierre de Villeneuve recevait tout à l'heure le député LFI Thomas Porte.
Invité politique ce soir dans Europe 1 Soir, le député LFI de Seine-Saint-Denis. Bonsoir Thomas Porte.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Comment allez-vous dans
Très
cette
bien.
Période difficile, oppressante?
Je crois qu'elle est difficile pour beaucoup plus de Françaises et de Français que pour moi. Donc.
Bien sûr, mais vous les représentez.
Oui, mais on est au travail justement pour... Avoir une débauchée politique qui réponde aux attentes des Françaises et des Français. Aujourd'hui, la situation est bloquée. On y en dira un mot. Je pense que le blocage vient d'Emmanuel Macron. Mais effectivement, il va falloir trouver une solution pour sortir de la crise politique et quelque part de la Ve République qui est à bout de souffle aujourd'hui.
Est-ce que vous attendez encore quelque chose de François Bayrou qui va s'exprimer ce soir à la télévision?
Moi, j'ai pas attendu grand chose dès qu'il y a eu la nomination de François Bayrou. C'est le premier soutien d'Emmanuel Macron. François Bayrou s'est positionné en faveur de la réforme des retraites à 64 ans qui est quand même aujourd'hui une ligne rouge.
Il dit qu'il rouvre le dossier.
Oui, il dit qu'il ouvre le dossier, mais nous on ne demande pas une ouverture du dossier, on voulait que le dossier soit mis au placard, que la réforme soit abrogée. Que va dire François Bayrou? Je n'en sais rien, mais on a vu que nos partenaires qui étaient allés aux discussions avec Emmanuel Macron...
Vos partenaires, c'est-à-dire?
C'est-à-dire les socialistes, les écologistes et les communistes, qui ont fait le choix d'avoir une stratégie différente, sont allés discuter avec le président de la République et le Premier ministre, sont sortis ce soir finalement en disant qu'il n'y avait pas d'accord possible avec des gens avec qui on ne partage aucune valeur.
Il n'y a pas de raison de ne pas censurer, a dit Olivier Faure.
C'est ce qu'a dit Olivier Faure. Et j'espère, et moi je suis convaincu que le nouveau Front Populaire se retrouvera sur soit la motion de censure, soit sur la question du vote de confiance, parce que on est passé un peu sous silence sur ce point-là. Mais historiquement, dans la Ve République, le ou la Première Ministre, qui vient faire un discours de politique générale à l'Assemblée, demande un vote de confiance. Depuis 2017 et depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron...
Il va y avoir ça.
Non, François Bayrou a dit qu'il ne ferait pas de vote de confiance. Donc nous, ce qu'on dit, c'est
François
pas de vote.
Bayrou
de...
change d'avis.
Oui, écoutez, j'espère.
40 ans de vie politique.
J'espère qu'il y aura un vote de confiance, parce que ça permettra de se placer soit du côté du gouvernement, soit dans l'opposition. Et s'il n'y a pas de vote de confiance, nous on déposera une motion de censure avec l'article 49.2. Et là aussi, ce sera un moment de vérité. On verra celles et ceux qui censurent le gouvernement et qui sont opposés à la politique qui va être menée par François Bayrou, qui est la continuité d'Emmanuel Macron, et celles et ceux qui soutiendront le gouvernement.
Quand vous avez vu vos partenaires, comme vous dites, les socialistes, les écologistes, aller à cette réunion, qu'est-ce que vous leur dites? Vous dites, c'était de toute façon pas la peine?
Oui, c'était pas la peine, et finalement, je constate qu'aux sorties des réunions, ils font le même constat que nous. C'est-à-dire, on nous parle de compromis, d'accord, d'accord de non-censure ou de gouvernement d'union nationale. Mais un compromis avec qui? Avec des gens qui ont perdu les élections? Un compromis avec des gens qui sont opposés, encore une fois, à l'abrogation de la réforme des retraites. Je donne un élément. Le Modem a aujourd'hui un député qui s'appelle Philippe Vigier, qui est celui qui a déposé quasiment le plus d'amendements le jour de la niche parlementaire de la France Insoumise pour s'opposer à l'abrogation de la réforme des retraites. Donc on n'a aucun compromis à passer avec ces gens-là. Et je crois qu'il fallait respecter le résultat des élections législatives. Nous sommes arrivés en tête, certes avec une majorité relative, ça ne nous a pas échappé, mais l'ordre des choses fait qu'on aurait dû être nommé au gouvernement et aller discuter texte par texte, pas faire l'inverse. On fait pas de compromis avant sur la nomination du gouvernement, on le fait sur un gouvernement qui a gagné les élections et qui doit après aller se battre dans l'hémicycle.
Olivier Faure a appelé donc à la censure, on l'a vu tout à l'heure quand il est sorti de Matignon. Est-ce que c'est le retour à la maison auquel appelait d'ailleurs Manon Aubry sur Europe 1?
Bah, c'est surtout le respect du mandat qui nous a été confié par les électrices et les électeurs du nouveau Front Populaire.
Parce qu'on a tellement dit ces derniers temps que le NFP était fracturé, que certains socialistes allaient peut-être rejoindre le fameux socle central. Est-ce que c'est aujourd'hui, ce soir, peut-être pour la première fois depuis plusieurs semaines, une façon de comprendre que, en tout cas, la gauche, celle d'Olivier Faure, parce que si après on s'amuse à décomposer dans le PS, peut-être qu'il y a aussi d'autres courants, mais en tout cas celle portée par Olivier Faure, bah, c'est un retour quand même au NFP et donc avec le partenariat avec la France Insoumise.
Je crois qu'il n'y a pas d'unité possible à gauche si c'est pas sur un programme de rupture. Et ça s'est fait aux élections législatives. Ça s'est fait aux élections présidentielles autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui a fait 22%. Et ce qui rassemble aujourd'hui le peuple de gauche, c'est un programme de rupture avec les politiques menées par Emmanuel Macron. Et effectivement, le NFP existe toujours, il est toujours vivant, contrairement à toutes et ceux qui ont voulu le voir éclater, le voir inexistant. Il existe parce qu'il y a un désir d'unité dans le pays, mais qu'il y a un désir d'unité sur un programme. Et il y a des gens partout sur les marchés qui nous ont interpellés, qui m'ont interpellé en disant qu'on avait raison de pas aller discuter avec Emmanuel Macron ou François Bayrou, parce qu'on savait déjà ce qui allait en sortir. Si c'est pour faire un tour de table et dire qu'on n'est pas d'accord, ça sert à quoi d'aller discuter avec ces gens-là?
La censure ne fonctionne que si vous êtes plusieurs, et le NFP est pour l'instant pas dans la capacité de faire une censure tout seul. Alors la dernière censure qui a marché, c'est avec le RN. Alors comment on fait, sachant que pour l'instant le RN et le NFP, corrigez-moi, c'est lui l'élo. Donc normalement on s'entend pas, on se parle pas, et pourtant on vote des censures ensemble.
C'est effectivement des gens avec qui on ne partage aucune valeur et qui sont pour moi des ennemis politiques et que je les combats, j'ai aucun souci à assumer cela. La motion de censure, tout seul le NFP ne peut pas faire tomber le gouvernement. Nous on la dépose parce que c'est l'arme politique à disposition
constitutionnelle,
à disposition d'une opposition pour contrer le 49-3, pour contrer le fait qu'il n'y ait pas de discours de confiance, de vote de confiance après le discours de politique générale. Après, libre à chacune et chacun de le voter. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne votera pas une motion de censure qui est déposée par l'extrême droite, qui dedans reprendrait des motifs identitaires, des motifs sur les questions migratoires, des motifs qui sont pour
nous... Mais est-ce qu'il y a toujours ça dans une motion de censure du RN?
Une motion de censure, c'est un texte avec des objectifs
politiques.
Oui,
non, mais je sais bien. Mais est-ce qu'il y a toujours...
Il y a toujours ce genre...
Systématiquement?
Il y a toujours des propositions qui sont pour nous indignes. Et encore une fois, on ne partage rien avec ces gens-là. Moi, j'ai assumé de dire que je ne voterai jamais une motion de censure déposée par le Rassemblement National.
Mais est-ce que ça vous étonne que le Rassemblement National vote une censure? Et d'ailleurs, sur la dernière, il y avait bien quelques textes qui ont été repris, d'ailleurs, dans la bouche de Michel Barnier lors d'une allocution télévisée, c'était un peu paradoxal, parce que Marine Le Pen votait d'une certaine manière contre elle-même, puisque vous dénonciez plusieurs choses justement du RN.
D'abord, c'est la vie parlementaire que sur des textes, il y ait des votes communs de différents bancs. Et si on regarde dans le détail, quels sont les partis politiques qui votent le plus ensemble sur la dernière législature, celle avant la dissolution, c'est le Rassemblement National, LR, les macronistes qui votent le plus souvent ensemble. On a étudié les chiffres. Mais je voudrais pas qu'on oublie que le RN qui a voté la motion de censure nous a fait perdre 3 mois de temps. Nous avions déposé une motion.
Vous comptiez sur le RN avant.
On avait mais toutes celles et ceux qui se sont dit on est dans l'opposition, on est contre Emmanuel Macron, on veut le faire tomber, on est contre sa politique, lui ont donné 3 mois de sursis.
C'est jamais aussi binaire, vous le savez très bien.
Non, mais ces gens sont allés négocier jusqu'au bout avec François Bayrou. Ils ont essayé de le sauver. François Bayrou a fait un discours lamentable à la télé pour dire député du RN, ne votez pas la censure, respectez vos électeurs, venez me sauver. C'est ça qui s'est passé jusqu'au dernier moment. Marine Le Pen a essayé d'éviter de voter la censure. De Michel Barnier, pardon.
Oui.
Donc jusqu'au dernier moment, il a essayé de sauver sa tête avec l'aide du Rassemblement National. Donc ces gens se sont opposés quasiment jusqu'au bout à la censure. Et nous, on avait déposé une motion de destitution. Marine Le Pen a bloqué la motion de destitution en conférence des présidents de l'Assemblée Nationale pour dire on ne s'attaque pas au chef de l'État. Voilà la réalité de l'extrême droite.
Parce qu'elle est légitimiste de la Constitution et du mandat présidentiel. Et parce que peut-être le président de la République est accessoirement élu par l'ensemble des Français.
Bien sûr, mais une motion de destitution, c'est un processus politique permis par les instances et les institutions de la 5e République.
Ça existe.
Et aujourd'hui, je constate quand même que Jean-Luc Mélenchon ou la France Insoumise sont loin d'être les seuls à dire que le problème est Emmanuel Macron. Ça va largement au-delà de nos rangs.
Un mot de Mayotte, le président est sur place. Reconstruction, rebâtir Mayotte, mais aussi raccompagner, il l'a dit, 35 à 40 000 personnes à la frontière mahoraise tous les ans. Comment est-ce que vous réagissez?
Je crois qu'il y a une forme d'indignité à cibler ces personnes-là.
D'indignité.
Et ça s'inscrit dans les obsessions racistes du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui a fait plusieurs sorties.
Et là, c'est le président qui parle.
Ces derniers jours, oui, mais ça reprend cette focale-là comme si le problème, c'était la question migratoire à Mayotte. Le problème, c'est pas ça.
Mais...
On est aujourd'hui quand même, je veux qu'on s'arrête sur ce qui se passe. C'est la plus grande catastrophe climatique depuis 90 ans.
Je sais bien, mais c'est les élus de Mamoudzou, les élus maorais qui demandent justement cela face aux Comores.
Mais moi, je suis en désaccord avec ça.
Mais ils sont sur place, c'est eux qui le demandent.
Je suis en désaccord avec ça. Est-ce que ça va régler le problème? Parce qu'on nous parle beaucoup, par exemple, de l'opération Wambushu. On nous dit la France Insoumise s'est opposée à l'opération Wambushu. C'est à cause de vous
qui a été menée par Gérald Darmanin.
C'est à cause de vous aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont morts, par exemple, sous l'habitat qui est imparfait avec des tôles. D'abord, l'opération Wambushu, elle a eu lieu. Nous, on était opposés à ça, mais elle s'est quand même déroulée. Est-ce que ça a empêché aujourd'hui d'avoir des dizaines, des centaines de milliers de morts? Non, parce que on parle aujourd'hui de plusieurs milliers de morts. C'est ce qui va se passer. J'écoutais une collègue députée qui était sur place tout à l'heure, qui racontait les corps en putréfaction, l'impact. Mais vous savez, quand vous avez des gens qui habitent aujourd'hui aux Comores, et qui voient qu'à Mayotte, on est 8 fois le produit par habitant est 8 fois supérieur à celui des habitants des Comores. Vous pouvez dresser les barbelés que vous voulez, les murs, fermer les frontières, vous allez faire quoi? Jeter les gens à la mer? Les gens cherchent à vivre dignement. Donc il y a une question de l'accueil. Comment on accueille ces gens?
Qu'est-ce que vous dites aux élus maorais qui veulent justement moins d'immigration sur l'île de Mayotte?
Mais je crois qu'il faut d'abord plus de moyens de l'État. Aujourd'hui, Mayotte est le département le plus pauvre de France. Et pourtant, l'État, par habitant, investit 200 euros de moins que sur chaque autre département français. Donc il faut plus de moyens. Quand on, nous, on est bien sûr favorable à ce qu'on détruise les bidonvilles, mais pour proposer des solutions de relogement. Et puis, il y a une question d'anticipation, parce qu'on est sur un cyclone qui n'est pas venu de nulle part. C'est la question du réchauffement climatique, c'est la question de la préparation. Emmanuel Macron avait promis une loi en 2018 sur la question des risques et des catastrophes naturelles en Outre-mer. Elle n'est jamais venue. Il a dissous...
Pour ça, il faut des moyens. On n'arrive même pas à voter un budget. Non, mais est-ce que vous voulez faire une réforme structurelle?
Il a dissous ce qu'on appelle la délégation interministérielle aux risques d'outre-mer. Ils ont saboté notre commission d'enquête avec Jean-Philippe Nilor. Donc tout ça nécessite des moyens et de l'argent. Et je crois que quand on est aux affaires et qu'on gouverne, c'est aussi se préparer, anticiper les futures crises climatiques. Il va y en avoir, les experts le disent et alertent. Donc demain, comment on crée les conditions qu'on n'ait pas des gens qui soient aujourd'hui entièrement décédés? Et je veux juste dire un mot sur la situation des enfants, si vous me permettez, parce que...
En 10 secondes.
Oui, la moitié des habitants de Mayotte sont des enfants.
Oui.
Et moi, je demande à ce que le gouvernement réponde à l'appel de l'UNICEF qui a demandé à pouvoir venir sur place pour aider les enfants. C'est extrêmement important.
Voilà pour cet entretien du député LFI Thomas Porte. C'était tout à l'heure dans Europe 1 Soir avec Pierre de Villeneuve. Et à 22h30 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver, comme tous les soirs, Omblin Roche pour les années top 50.
Merci Maëlle Hassani, on vous retrouve à 23h pour l'information sur Europe 1. C'est maintenant les années top 50.
Europe 1, les années top 50.
Omblin Roche.
Bonsoir les petits clous, c'est l'heure de votre programme musical du soir, les années top 50, pour célébrer les 40 ans du top 50 de Marc Toesca et les 70 ans de notre belle station le 1er janvier 2025. Oui, ça approche. Je vous propose chaque soir un aller direct dans les années 80 et 90, âge d'or de la musique pop, 15 minutes, 3 chansons et que du bonheur.
Les années top 50, Omblin Roche sur Europe 1.
Dans 2 jours à peine, nous quittons l'automne pour l'hiver, la période des frimas, ces épais brouillards bien givrés, des chutes de neige et des feux de cheminée. Et ce soir, justement, j'avais envie de vous préparer au mieux à ce changement de saison en douceur. Ensemble, nous allons écouter les Bengals, Michel Berger et la jeune Elsa, 2 ans après l'énorme succès de son single T'en va pas, numéro 1 du top, hein, pendant 8 semaines. Eh bien, Elsa sort son premier album sur lequel figure ce titre parfait pour regarder les premiers flocons qui tombent. Jour de neige, c'est dans les années top 50 sur Europe 1.
Sur moi.
avec Jour de neige sur Europe 1 qui a passé 20 semaines dans le top 50, culminant à la deuxième place, bloquée par Pourvu qu'elle soit douce de Mylène Farmer. Elsa a également conquis le top européen en enregistrant ce titre en italien et en espagnol.
Europe 1, les années top 50.
Omblin Roche.
Allez, allons faire un tour du côté de la Californie. Alors, c'est un temps hivernal, hein. Plutôt clément à Los Angeles avec les Bangles, ce groupe féminin qui nous avait fait marcher comme des Égyptiens en 1986. L'année suivante, ce groupe de filles reprend une chanson de Simon & Garfunkel. C'est celle-ci et on l'écoute sur Europe 1, A Hazy Shade of Winter. Qui ont donné une seconde vie à cette très très jolie chanson de Simon & Garfunkel 20 ans après sa sortie initiale, chanson qui s'appelle Hazy Shade of Winter. Les filles qui étaient fans du duo reprenaient souvent le titre, ce titre sur scène. Quand on leur a proposé de le reprendre pour les besoins de la bande originale du film Neige sur Beverly Hills, elles ont sauté sur l'occasion et elles sont allées l'enregistrer en studio. Elles ont bien fait.
Europe 1, les années top 50. Omblin Roche.
Et ce soir dans les années top 50, on parle hiver, on parle de neige, de froid. Et pour la dernière chanson, je vous propose de partir sur la banquise avec Michel Berger. C'est le paradis blanc sur Europe 1.
Il y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer. Recommencer là où. Je m'en irai dormir dans le parc.
Sur son album Ça ne tient pas debout, une chanson plutôt énigmatique. Pour certains, elle parle d'écologie et de l'Antarctique avec ce chant de baleine dans l'introduction, mais qu'on entend aussi à plusieurs reprises dans la chanson et à la fin notamment. Pour d'autres, c'est un titre prémonitoire qui annonce la disparition de l'artiste 2 ans plus tard. En tout cas, plus de 30 ans après sa sortie, le Paradis blanc de Berger nous fascine toujours autant.
Europe 1, les années top 50.
Aubine Roche.
Et voilà, j'espère que cette petite playlist hivernale vous a mis du baume au cœur en ces longues soirées qui n'en finissent plus. On se retrouve demain pour une autre émission où nous allons justement profiter de ces nuits frisquettes pour se réchauffer sur le dance floor. À demain, même heure, même endroit. Et tout de suite, vous retrouvez Olivier Delacroix et la Libre Antenne d'Europe 1. Bonsoir Olivier.
Bonsoir ma chère Ombline et merci pour ce voyage. Et oui, cette version prémonitoire, puisque Michel Berger nous quittait 2 ans après cette chanson magnifique. Avait-il senti qu'il était appelé vers d'autres cieux blancs? Nul ne le saura, et peut-être que quand nous aussi nous rejoindrons le grand paradis blanc, il sera là pour nous l'expliquer. Il est 22h45, même 46 sur Europe 1.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une agréable journée, chers amis, une belle journée, et que vous vous préparez à passer un excellent week-end en compagnie des vôtres, puisque nous sommes jeudi et que c'est maintenant presque le week-end, et puis ces fêtes qui s'annoncent, ces fêtes qui sont là, tout près, Noël, et puis le jour de l'an, cette nouvelle année qui se profile. Europe 1, bien évidemment, va vous accompagner chaque jour dans ces fêtes et nous espérons vous les faire passer de manière encore plus colorée, plus joyeuse, plus heureuse que jamais. Vous savez, il y a le grand jeu Europe 1, soyez toutes et tous attentives et attentifs à nos annonces puisqu'il y a d'excellents et de très beaux cadeaux à gagner. Mais c'est la dernière libre antenne de la semaine car nous nous retrouverons maintenant en tout début d'année puisque c'est Roland Pérez qui occupera mon poste à partir de lundi et ce pendant 2 semaines. Bien évidemment, vous retrouverez l'excellente Valérie Darmon dès demain, bien évidemment comme d'habitude. Alors nous allons passer cette dernière libre antenne et il est temps de composer le 01 80 20 39 21 si vous ne l'avez jamais fait. Car pour cette dernière libre antenne, peut-être pouvons-nous nous dire quelques mots. En tout cas, vous le savez, je suis là pour vous écouter, donc n'hésitez pas. Vous nous envoyez vos SMS au 739 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous nous écrivez vos mails à libreantenne@europe1.fr. Vous nous adressez vos courriers à Olivier Delacroix, à Valérie Darmon, à la Libre Antenne en règle générale. Ici à Europe 1, 2 rue des Cévennes, 75 015 Paris. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, il y a le groupe Facebook qui manquait. Sur notre groupe Facebook, où nous accueillons aujourd'hui 5 nouveaux membres. Et nous leur souhaitons bien évidemment welcome, la bienvenue. Nous sommes désormais 21 409 sur cette communauté numérique de la Libre Antenne qui suit attentivement tout ce qui se raconte sur cette antenne, qui influe parfois sur certains dossiers, qui aide, qui offre sa solidarité, son grand cœur. Vous êtes là, en tout cas, je le sais, et avant de vous quitter ce soir, je veux d'ores et déjà vous remercier pour votre fidélité et merci d'être là et de donner du sens à notre mission qui est d'aider certains d'entre vous, de vous aider, de vous écouter et de passer ces moments ensemble. C'est très important pour Julia, pour Florian, pour Laurent, pour moi, pour Maëlle aussi, Assani qui va nous rejoindre dans quelques temps. Voilà, votre libre antenne du jeudi, c'est parti.
La libre antenne, Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et puis, bien évidemment, j'en discutais avec Pascal Pro encore ce soir, mon ami Pascal. C'est toute la rédaction d'Europe 1, tous les journalistes et tous les animateurs de cette radio que vous avez plébiscité, qui, bien évidemment, sont très heureux de vous voir arriver chaque mois, toujours plus nombreuses et toujours plus nombreux. Le proverbe toltèque du jour sur une idée de Florian Lanoir, j'accepte de ne rien faire aujourd'hui. Ça, c'est un super, une super phrase toltèque. J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, eh bien plus je suis efficace. J'observe que le fait de me sentir libre et détendu m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte, dans le stress, dans la pression. Dans ces moments où je me sens libre et détendu, eh bien, je réfléchis plus sereinement. Je suis beaucoup plus ouvert d'esprit, peut-être plus en connexion même avec moi-même. Comme ça, j'accepte de ne rien faire aujourd'hui pour mieux faire demain. À méditer. Nous accueillons Pierrot pour débuter cette libre antenne. Bonsoir Pierrot.
Bonsoir.
Bonsoir. D'où m'appelez-vous Pierrot et quel âge avez-vous ?
Alors là, actuellement, je vous appelle de chez mes parents en Bourgogne et j'ai 24 ans.
D'accord. De quoi voulez-vous me parler, mon cher Pierrot ?
Eh bien, écoutez, moi, je suis sportif de haut niveau. Oui. Je suis né avec une déficience visuelle et donc je suis malvoyant.
Oui.
Et je suis champion du monde de parasurf.
Vous êtes champion du monde de parasurf, mais je parle à une star, là, ce soir. Vous savez que je surfe peu, hein, très mal. Enfin, je surfe depuis mon plus jeune âge. Mais à côté de vous, ça serait ridicule qu'on soit à côté l'un de l'autre. Parce que si vous êtes champion du monde, je suppose que... Hein, bon, non, bah ça, alors ça, c'est une... Si on peut avoir une certitude ce soir, Pierrot, c'est que je serais ridicule à côté de vous. Ça, c'est certain. Mais donc, la passion... Elle est venue comment, cette passion ? Parce que lorsque vous dites que vous êtes malvoyant, précisez-nous exactement quel est l'état des choses. Vous voyez un peu ? Vous voyez comment ?
Oui, en fait, je suis né avec une maladie dégénérative de la rétine.
Oui.
Quelque chose de génétique qu'on a découvert dans ma famille, du coup. Mm-hmm. Et donc, moi, je suis né avec un œil aveugle et un œil qui a entre... on va dire 10% à peu près, de vision totale, oui. Mon œil gauche. Mm-hmm. Donc, c'est un petit peu difficile d'expliquer comment je vois, parce que, évidemment, comme je l'ai déjà vu comme une personne normale, j'ai pas d'éléments de comparaison, mais voilà, donc un côté aveugle, un côté très malvoyant.
Oui.
J'ai quand même les couleurs, les formes, j'ai pas de notion de distance, mais voilà.
Mm-hmm. D'accord.
Et je suis né comme ça.
D'accord, vous êtes né comme ça. La passion du surf, elle est venue comment ? Parce que vous m'avez dit m'appeler de Bourgogne. Êtes-vous originaire de Bourgogne ou vous avez habité près de l'océan à un moment et vous avez été inspiré par les vagues ?
Mais c'est ça, je suis né en Bourgogne et j'ai grandi jusqu'à mes 17 ans.
Mmh.
Donc quand j'étais au lycée, je faisais déjà beaucoup de snowboard. Et donc après le lycée, je suis parti travailler à la montagne.
Oui.
Pour pouvoir du coup faire plus de snowboard, c'était vraiment ma grosse passion à l'époque, avec le skate.
Oui.
Donc voilà, j'avais 17 ans quand je suis arrivé, et j'ai passé 3 ans de ma vie là-bas, en fait juste jusqu'au Covid, où du coup les stations ont fermé, et elles n'ont pas réouvertes l'année d'après, et du coup, ben voilà, moi j'avais envie de faire quelque chose, et c'était l'occasion pour... j'avais envie de me mettre au surf depuis un moment, j'avais déjà essayé. Et voilà, du coup, j'ai essayé et au final, je suis parti dans des longs voyages. Et maintenant, j'habite au bord de la mer et c'est principalement ce que je fais tous les jours.
Alors, on est bien d'accord que on parle de surf sur mer, hein, et non pas
surf
de...
sur mer, ouais, bien sûr.
Ouais, pas de snowboard. Mais cette passion de la glisse, en fait, cette sensation, vous est venue d'abord avec la neige.
Ouais, enfin avec le skate même.
Avec le skate, ouais. Bah, c'est vrai qu'on fait tous. Voilà, j'étais grimpé à 12 ans sur un skate et c'est vrai que c'est tout ça est très proche en fait et donne de véritables sensations. Les premières sensations quand même après le skate, après la montagne, une vague, l'énergie d'une vague, cette sensation de glisser et puis après ensuite bien évidemment plus on améliore sa technicité, plus on peut jouer avec cette énergie, avec quelque chose qui est de l'ordre du divin pour moi. Je trouve que la sensation que l'on ressent sur une...
C'est vraiment spécial.
C'est très spécial. C'est
très différent, même le snowboard aussi, quand il y a vraiment de la bonne neige, c'est des sensations de dingue, mais ouais, le surf, il y a un rapport aux éléments qui est différent aussi.
Il n'y a rien de... comme sensation, ou alors peut-être je pense dans l'air, vous savez ces gens qui font de la chute libre, ces hommes qui volent, je me suis toujours dit que il n'y avait que peut-être qui pouvaient ressentir aussi cette, vous savez, cette énergie quand on est debout sur cette planche, qu'une vague, qu'elle fasse 1 mètre, qu'elle fasse 3 mètres ou qu'elle fasse 10 mètres, nous pousse, il y a une énergie de l'ordre, c'est presque un plaisir proche d'un plaisir érotique, je trouve. Il y a quelque chose qui se passe en termes d'émotion qui est incomparable. Et j'ai discuté avec un garçon. Je peux vous dire que je lui ai dit à la fin, tu es fou, parce que vous savez, vous avez vu ces gens qui se lancent dans avec des ailes, hein, ces hommes ouais. Chauves-souris, c'est très impressionnant. Et lui avait fait du surf aussi. Il m'avait dit qu'il ressentait un peu cette même sensation, ce même plaisir.
Ouais, ça m'étonne pas. Bon, après, je pense que quand tu fais ce genre de sport, du windsuit, là, avec les ailes, oui. Il va y avoir pas grand chose qui peut se mettre au même niveau d'adrénaline, mais.
Oui, non, je pense que ça, c'est plus.
On va retrouver quelques sensations, ouais. Mm-hmm.
Alors, revenons à vous. Avant que vous fassiez de la compétition, vous découvrez le surf où exactement? Dans quelle région de la France?
Alors j'avais commencé à surfer déjà en fait quand j'étais plus petit, j'avais déjà fait quelques cours de surf juste pour essayer en Bretagne et dans les Landes. Et après du coup au Covid, j'en ai fait un petit peu en France, oui. Dans les Landes et un petit peu en Méditerranée aussi, et après je suis parti en voyage aux Açores, ensuite vu que les stations n'ont pas réouvert, je suis resté l'hiver en fait et je l'ai passé à Madère.
Oui. Il y a des vagues de beaucoup à Madère.
Ouais, des vagues vraiment consistantes, assez, c'est
des grosses mémères, non?
Des vagues assez grosses, ouais.
Oui, c'est ça.
Des vagues, mm-hmm. Y a beaucoup d'eau qui bouge, c'est des conditions assez costauds.
Oui.
Et du coup, après, j'ai continué de voyager. L'hiver d'après, je suis revenu à Madère et voilà. Et après, puis j'ai jamais arrêté au final.
Et donc, comment en êtes-vous venu à la compétition, parce que vous êtes champion du monde aujourd'hui, il n'y avait pas de parasurf pour les Jeux?
Non, malheureusement, c'est pas passé. En fait, le surf est olympique depuis, c'était la deuxième édition. Mm-hmm. Et il faut souvent, en fait, que du coup, le sport, pendant deux éditions aux Jeux Olympiques, il est en période de test. Donc là, ça a été validé. Oui. Et on devait sûrement être en 2028, mais c'est plus c'est sûr, apparemment, c'est plus parti pour 2032. Donc non, pour l'instant, c'est pas paralympique.
C'est vraiment dommage pour le coup, franchement, parce que vous êtes beaucoup à pratiquer aujourd'hui partout dans le monde.
Oui, c'est sûr, il y a du monde. Après, il y a des catégories aussi où il y a moins de monde que dans d'autres.
Oui.
Donc voilà. Et en vrai, c'est quand même un sport qui est en pleine évolution, ça fait quand même pas très très longtemps non plus que ça se développe, là c'est de mieux en mieux, il y a de plus en plus de moyens qui sont mis dedans pour les compétitions, tout ça, donc voilà, on espère que dans le futur, mais en attendant, même s'il y a les Paralympiques, il y a quand même de plus en plus de monde qui est aussi en situation de handicap, qui se met à surfer, qui commence à prendre du plaisir, donc voilà, c'est même s'il n'y a pas les Paralympiques, pardon, il y a ça. Au moins, on a ce côté qui évolue. Mmh.
Même si je regrette profondément, mais on en parlera après, on va faire une petite pause, mais que le surf soit aussi populaire aujourd'hui et qu'il y ait autant de monde sur les vagues. Vous restez avec moi, Pierrot. On va faire une petite pause et puis on se retrouve dans quelques minutes, d'accord?
Ça marche.
À tout de suite.
Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko.
7h-9h, Europe 1 matin.
Écoutez, Europe 1, c'est être libre. Libre de s'informer.
Pas de vote, pas de budget, pas d'application possible au 1er janvier.
Le manque de visibilité politique angoisse les petits patrons.
Cette instabilité ne date pas.